Chers frères et sœurs, chers amis, vous aurez remarqué la tonalité basque de cette belle célébration de l'ordination de nos trois jeunes lévites. Et c'est bien normal, puisque nous sommes ici sur la côte basque, dans cette belle église Saint-Vincent de Cibourg, et j'en profite pour remercier M. l'abbé Lionel Landard, curé de la paroisse Saint-Pierre de l'Océan Saint-Jean-de-Luz, les prêtres de son équipe et toute sa communauté paroissiale, en particulier de Cibourg, pour l'accueil que vous nous faites pour cette célébration. Merci aussi aux prêtres qui sont venus en grand nombre, y compris du Pays basque, qui se sont rassemblés dans une grande solidarité, fraternité autour de nos trois ordinants. Il faut dire que chacun des trois a, parfois désormais, un lien très fort avec le Pays basque. À commencer bien sûr par Baptiste Pochelu, qui est un enfant du pays. Clin d'œil de la Providence, aujourd'hui, en ce 30 mai 2019, il célèbre le 26e anniversaire, jour pour jour, de son baptême dans cette même église, le 30 mai 1993. Ça ne s'invente pas. On pourrait lui appliquer, en effet, ce que la liturgie applique à son grand saint patron, saint Jean-Baptiste, les paroles de Jérémie ou d'Isaïe, les prophètes. « Dès le sein de ma mère, tu m'avais appelé. Dans les entrailles de ma mère, tu as prononcé mon nom, ce que chacun d'entre nous, chacun des ordinants, peut en effet faire résonner aujourd'hui particulièrement dans son cœur. » Sans doute, s'il est enraciné dans une terre qui est celle du Pays basque, il a fait un détour par les missions étrangères de Paris. Il est formé au séminaire français de Rome et d'une certaine manière a découvert que l'Église est d'abord universelle, même si elle s'incarne dans une terre, dans une culture, dans une langue. Et je veux aussi saluer le recteur du séminaire français de Rome, le père Vincent Sirette, ainsi que le père Marc Ruiz, le directeur spirituel de Baptiste, avec quelques-uns de ses compagnons de séminaire, qui ont bien chanté le psaume tout à l'heure, et qui sont venus l'entourer au jour de son ordination diaconale. Puis il y a aussi François Régis Jeannot. Il est né à Nantes. Nul n'est parfait. Il a demandé le baptême alors qu'il était lycéen, à Nantes toujours. Et il dit même que c'est au moment de son baptême que l'appel au sacerdoce a retenti pour la première fois. Même s'il a attendu 10 ans, après de longues et grandes études et le commencement d'une carrière brillante d'enseignant-chercheur, qu'il a décidé, au terme d'une retraite ignatienne à Manres en 2012, de suivre le Christ, de renoncer à lui-même et de porter sa croix chaque jour comme Jésus y invite ses disciples, en particulier ceux qu'il appelle à être avec lui. Mais nous savons que ses racines familiales soultines ont beaucoup compté dans la construction de sa personnalité humaine comme dans le discernement de sa vocation au sacerdoce. Et puis Alexandre Méret, il n'est pas du Pays basque, ou en tout cas de la partie la plus nord du Pays basque, puisqu'il vient du Poitou. Mais, par un appel de la Providence, il a quitté sa terre, qu'il aime tant, pour être transplanté sur notre terre basco-béarnaise, car le diocèse, comme vous le savez, est basco-béarnais. Mais, en bon paysan, il y a retrouvé le lien de l'homme à la terre, ici comme au Poitou. Et il a appris à aimer cette terre basco-béarnaise, il s'évertue même, figurez-vous, à apprendre le basque pour manifester son attachement à ce peuple qu'il est décidé aujourd'hui à servir dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. J'en profite pour saluer le recteur du séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, où François Régis et Alexandre ont accompli toute leur formation sacerdotale, les séminaristes, l'équipe des formateurs, les séminaristes qui l'entourent comme des frères, ainsi que les séminaristes du séminaire Redemptoris Mater de Bayonne, qui sont leurs compagnons d'études. Et puis bienvenue aussi aux familles, en particulier aux parents de ces trois ordinants, que je salue avec affection. Ils savent, eux, dans leur cœur, ce qu'ils vous doivent. Et ils ne découvriront sans doute qu'au ciel tout ce qu'ils vous doivent dans leur histoire. Et dans l'histoire que Dieu fait avec eux, vous êtes aujourd'hui, chers parents, les témoins privilégiés de ce que seul Dieu pouvait faire dans l'histoire et dans le cœur de vos fils. Ils n'étaient pas sur des rails qui devaient les conduire immanquablement à ce jour de leur ordination diaconale, demain de leur ordination sacerdotale pour le diocèse de Bayonne, l'Escariolorum. Seul Dieu pouvait être assez persuasif pour que librement, aujourd'hui, ils consentent à renoncer à fonder une famille, à quitter une terre, un travail, parfois une carrière ou des études, parfois brillantes, pour se mettre à la suite du Christ et pour donner, faire le don de leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on le dit de Paul et Barnabé dans les Actes des Apôtres. J'en profite pour saluer tous les fidèles et les prêtres présents aujourd'hui, pour les entourer de leurs prières et de leur affection, en particulier les communautés paroissiales qui les ont accompagnés tout au long de leur formation sacerdotale. La paroisse Saint-Michel-Garicoz du Labour, Cambeau, pour François Régis. Les paroisses de Notre-Dame du Rocher, Biarritz, et de Saint-Pierre de Montcade, Orthès, pour Alexandre. Et la paroisse Notre-Dame de la Bidassoa, Andaille, pour Baptiste. Dans quelques instants, par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint, vous allez être ordonné diacre. Vous allez recevoir le premier degré du sacrement de l'ordre. Vous allez entrer de plein pied dans le sacerdoce ministériel de Jésus, mais par la porte du service. Vous savez en effet que lorsque Pierre et les autres apôtres ne voulurent pas délaisser ce qui faisait l'essentiel de leur ministère apostolique, à savoir le service de la prière, en particulier liturgique et sacramentelle, et le service de la parole à travers la prédication de l'évangile du salut, ils furent inspirés par le ciel de choisir 7 hommes de bonne réputation, sur qui ils prièrent, et à qui ils imposèrent les mains pour les préposer au service de leurs frères, à commencer par les plus pauvres, les plus éloignés, les plus délaissés, ce que l'on appelle dans les Actes des Apôtres le ministère des tables. Et vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas seulement de distribuer une nourriture terrestre, mais aussi de distribuer le pain de la parole à travers la prédication et le pain de vie de l'Eucharistie. Eux qui seront députés à prendre sur l'autel le corps et le sang du Christ pour les distribuer aux fidèles. On le voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, Philippe, le diacre préposé au service des tables, que l'on voit aussitôt catéchiser l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie et le baptiser séance tenante dans le Jourdain, et saint Étienne qui signera du sang de son martyr par sa lapidation cette prédication zélée du nom de Jésus, Sauveur, à ses frères de race, les Juifs, les scribes et les pharisiens, qui le lapideront. Serviteur, la porte du service. Pour demeurer toujours serviteur, non seulement pendant ces quelques mois de diaconat, mais lorsque vous serez prêtre, si Dieu veut, et même si Dieu vous donne d'embrasser la croix de l'épiscopat, toujours serviteur. À l'instar du Christ Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous entendrez cette recommandation de saint Pierre dans sa première épître qui nous dit « Vous avez la mission de paître le troupeau du Seigneur. non pas en vous faisant les seigneurs de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau, et en accueillant une autorité qui vous sera confiée, mais comme nous le dirons tout à l'heure dans la prière d'ordination diaconale, une autorité pleine de mesure, en latin auctoritas modesta, modeste, pleine de mesure. Pour accomplir ce service si important du peuple de Dieu, qui commence en effet par la diaconie de la charité, vous allez prendre et vous prenez aujourd'hui trois grands engagements que je voudrais souligner, pour nous les rappeler à nous-mêmes qui sommes prêtres, diacres, évêques, depuis tant d'années. Le premier engagement, vous l'avez pris il y a quelques instants, en faisant un pas en avant, vous avez même signifié votre détermination, c'est celui du célibat consacré pour le royaume de Dieu. Et vous savez bien, cher fils, combien ce célibat est remis en cause, d'abord par le monde qui ne peut pas comprendre, mais Jésus l'avait déjà prévu, qui après avoir fait l'éloge de la continence parfaite pour le royaume, disait « Tous ne peuvent pas comprendre ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. Qui peut comprendre, qu'ils comprennent le célibat qui remonte, nous le savons, dans l'Église latine et dans l'Église tout court, à l'époque apostolique, et qui fut dans l'Église latine l'objet de prescriptions très sérieuses depuis le IVe siècle, réitérées sans cesse, jusqu'au XIIe siècle, tant il paraissait difficile parfois aux clercs de demeurer fidèles à leur engagement au célibat pour le royaume. Vous savez, vous, que vous adoptez de cette manière la forme de vie du Christ Jésus lui-même, qui s'est réservé tout entier dans la continence et la chasteté parfaite, se réservant pour cette unique oblation, précisément de son corps sur la croix, à travers ce sacrifice offert pour enlever les péchés de la multitude, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de nous le dire dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Il vous sera donné un jour, in persona Christi, de rendre réellement présent cette unique oblation du Christ dans la célébration du sacrifice eucharistique. Comprenez bien que c'est précisément dans la célébration de l'Eucharistie que l'on comprend le mieux le célibat du prêtre comme l'expression, l'épiphanie, la manifestation privilégiée de l'identité du prêtre configuré au Christ, époux de l'Église, qui a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré pour elle et qui a donné toute sa vie au service du peuple de Dieu. Il est significatif que le célibat sacerdotal soit remis en cause aujourd'hui dans l'Église, alors que nous traversons peut-être une crise sans précédent de l'identité du prêtre configuré au Christ, tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Il n'a pas fallu moins de 7 ans, n'est-ce pas, de formation sacerdotale, au mieux, pour que vous ayez l'occasion de vous éprouver vous-même, de vous connaître en vérité, d'appréhender vos limites et vos fragilités, dont nous avons tous conscience qu'elles sont toujours là, au jour où vous vous engagez au célibat pour le royaume, avant d'être ordonné diacre en vue du sacerdoce. Vous avez appris des moyens, acquis des vertus, qui vous ont permis d'être dans une maturité psycho-affective suffisante pour vous engager sereinement au célibat, avec la conviction que vous ne voulez pas tricher. Mais ce sera, et ça n'est un scoop pour personne, n'est-ce pas, l'objet d'un combat de tous les jours. Mais c'est la vie chrétienne qui est un combat permanent, comme le pape François nous l'a rappelé dans son exhortation apostolique « Gaudete et exultate » sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Il nous dit « La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncez l'Évangile, car vous n'aurez pas à combattre seulement contre la mondanité qui fait de nous de médiocres ministres de l'Église. Pas seulement contre vos inclinations, chacun la sienne, mais aussi contre le diable, qui en voudra particulièrement à votre fidélité au célibat, tant il est inséparable de l'identité du prêtre. C'est pour cela que tout à l'heure, vous allez recevoir le don de l'Esprit Saint pour être fidèle au ministère qui va vous être confié. Vous entendrez cette parole centrale de la prière d'ordination tout à l'heure, qui, avec l'imposition des mains, constitue la forme même du sacrement de l'ordre, aujourd'hui en son premier degré. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, que par lui ils soient fortifiés des sept dons sacrés de ta grâce, afin de remplir fidèlement leur ministère. La force sur laquelle Jésus insiste tant auprès de ses apôtres au jour de l'Ascension, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, comme dans l'Évangile, vous recevrez une force venue d'en haut. L'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et nous y sommes. Autrefois, dans l'ancien rite de l'ordination, on disait qu'on était ordonné ad rebours pour être fortifié. Ad cipe spiritum sanctum, ad rebours, ad resistendum diabolo, et tentationibus eius in nomine domini. Reçois l'Esprit Saint pour être fortifié et pour résister au diable et à toutes ses tentations au nom du Seigneur. Vous aurez besoin de l'Esprit Saint qui sera renouvelé quotidiennement dans votre vie à travers la fréquentation des sacrements, à travers la prière quotidienne, à travers la récitation quotidienne du chapelet, la Vierge Marie, qui est un rempart précisément contre le démon et qui sera la gardienne de votre chasteté et de votre fidélité sans cesse renouvelée, chaque jour remise sur le métier de votre vie. Et puis vous aurez très particulièrement cette arme spirituelle qui constitue le deuxième engagement fort de votre diaconat, l'obligation de la prière du bréviaire, mieux nommée sans doute de la prière des heures. Il y a un lien inséparable entre l'engagement au célibat et l'engagement au bréviaire. Vous savez, qui n'a pas vu autrefois ces prêtres, alors que le bréviaire était, même malgré son nom, qui veut dire abréviation, beaucoup plus long qu'aujourd'hui, qui a été profondément abrégé depuis la réforme, n'est-ce pas, liturgique. Et qui n'a pas connu ces vieux prêtres qui, à tout moment de la journée, pour rattraper une heure qu'ils n'avaient pas eu le temps de dire, reprenaient leur bréviaire et puis commençaient à réciter en marchant devant leur presbytère, ou devant leur salle paroissiale, ou dans leur église. Le bréviaire était comme inséparable du prêtre, comme une épouse est inséparable d'un époux. La prière des heures, par laquelle, heure après heure, dans la vérité des heures, vous rejoindrez le Christ tel qu'il se tient aujourd'hui, depuis le jour de l'Ascension, à la droite de son Père, devant la face de Dieu, toujours vivant, pour intercéder en faveur des hommes. Vous attacherez de cœur et d'âme au Christ, à travers la prière de l'épouse, la prière de l'Église qui s'unit au Christ, vous porterez devant lui les intentions et les besoins des hommes et des femmes auxquels vous serez envoyés et auxquels dont vous serez solidaires des joies, des tristesses, des espérances, des angoisses. Le bréviaire qui sera pour vous chaque jour, chaque heure, à travers cette prière continuelle du Christ, la source de votre fidélité au célibat pour le royaume, au célibat pour le Christ et pour le peuple auquel vous serez envoyé. Et puis enfin, le troisième engagement, l'engagement à l'obéissance, qui n'est pas qu'un engagement formel. On ne vous fera pas signer un formulaire administratif en trois exemplaires, et qui est un engagement charnel, parce que l'Église n'est pas une administration, Elle est un corps. Elle est un organisme vivant. Elle est le corps du Christ, dont l'âme est l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, vous poserez vos mains jointes dans les mains de votre évêque. Et je vous poserai la question, voulez-vous vivre en communion avec moi et avec mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Et vous répondrez publiquement, comme chacun d'entre nous, au jour de notre ordination, je le promets. Obéissance qui n'est pas une attitude extérieure, parce qu'elle est bien consciente aussi des limites et des fragilités de ceux auxquels il faut obéir dans l'Église, mais qui est une attitude théologale, qui procède de la charité théologale, c'est-à-dire de l'amour pour le Christ et pour les âmes, pour l'amour de Dieu. En promettant l'obéissance, vous signifiez que vous vivrez dans la communion avec l'autorité de l'Église qui représente le Christ, unique, souverain prêtre, vrai et bon pasteur de son peuple. Vous reconnaîtrez par là que la source de votre autorité dans l'Église ne viendra pas de vous, ne viendra pas de vos qualités, de vos charismes, de votre sainteté, aussi nécessaire soit-elle pour l'exercice du ministère, mais trouve son origine dans le Christ. Le Christ, obéir au Christ, car c'est lui qui conduit son Église. Et c'est vrai pour l'évêque, qui doit être en communion avec le successeur de Saint-Pierre, aujourd'hui le pape François, et avec tous les évêques qui sont en communion avec lui. Et c'est vrai pour le pape, qui est le premier à devoir obéir à cette tradition bimillénaire de l'Église que nous recevons des apôtres, lui qui peut s'appeler avec Saint Grégoire le Grand, Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Voyez enfin comment cette solennité de l'Ascension éclaire bien l'engagement que vous prenez au jour où vous recevez la grâce du sacrement de l'ordre en son premier degré. Vous serez appelés à être des témoins du ciel. Vous serez appelés à être des témoins de l'espérance. Cette espérance dans laquelle nous vivons déjà, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture de cette messe. Il nous a précédés auprès de toi dans la gloire. C'est là que nous vivons en espérance. Nous sommes tous appelés, comme le disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à entrer avec assurance dans le sanctuaire véritable, c'est-à-dire dans le ciel. Votre vocation aujourd'hui est de conduire les hommes au ciel. Vous vous rappelez de cette parole prophétique du saint curé d'Ars à ce jeune berger qui lui montrait la route pour rejoindre sa paroisse. Il lui dit, tu m'as montré le chemin d'Ars et moi, je te montrerai le chemin du ciel. Les apôtres eux-mêmes ne l'ont pas compris, qui demandaient à Jésus au jour de l'Ascension si c'était le jour prévu pour rétablir la royauté en Israël. Vous n'êtes pas destinés à ces réalités temporelles du peuple auquel vous êtes envoyés. Vous êtes destinés à les encourager à prendre leurs responsabilités, c'est vrai, et à animer chrétiennement les réalités temporelles dans lesquelles ils sont immergés. Mais vous, vous devez être des témoins d'espérance, des témoins du ciel, à travers votre vie qui doit être au ciel, souvent, en vous tenant sur la montagne de la transfiguration, avec le Christ Jésus qui est assis à la droite de son Père, en étant au service de vos frères avec charité, en servant les plus pauvres, en annonçant l'évangile du salut, car c'est pour cela aujourd'hui que vous êtes ordonné. Confiez-vous à tous les saints du ciel, comme nous allons faire maintenant, à l'instant, en chantant les litanies des saints. Confiez-vous tout particulièrement à la Vierge Marie, la reine des anges et la reine de tous les saints. Elle vous accompagne, elle vous porte, elle vous prend par la main, elle vous permettra de traverser beaucoup d'épreuves dans le combat pour que vous puissiez recevoir un jour la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Amen.